Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin,
courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, cinquième saison. Salut Kevin, comment ça va?
Ça va bien, toi, Jeff?
Ça va super bien. Je suis vraiment content encore une fois que tu sois présent pour co-animer une émission spécialisée sur l'immobilier. C'est vraiment très cool. On tient à remercier aussi notre commanditaire, Copé Management, avec Kevin Pépin, qui est nouvellement notre commanditaire pour toute la saison 5 et la saison 6. Yes. Fait que ça veut dire qu'on va être là aussi en janvier. Fait que c'est quand même super cool par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, on va parler de... Tu sais, on a eu plusieurs inspecteurs qui sont venus jaser de comment que ça marche, une enveloppe de bâtiment, le mécanique, etc. Mais tu sais, on n'a jamais eu personne qui est venu parler vraiment des états des immeubles, comment qu'on devrait prévoir certaines informations, à qui qu'on se fie par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, on reçoit Renaud Bergeron qui... Laissez-moi juste une seconde. Qui est directeur technique, ça, je voulais pas me tromper dans ton titre, qui est directeur technique de Réseau de Vinci, expert en bâtiment. Bonjour Renaud, comment ça va?
Bon matin, ça va bien. Merci de m'accueillir ce matin.
Parfait. Puis écoute, ça fait quand même un bon moment que tu es avec Réseau de Vinci.
Oui, exactement. Moi, j'ai commencé en réalité en 2008. Technologue en architecture, j'ai fait ma technique à Chicoutimi. Puis j'ai commencé quelque temps à faire du dessin comme la plupart commencent par la suite, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. C'est vraiment plus le côté technique. Puis quand j'ai vu paraître une offre d'emploi à Québec, ben, j'ai appliqué là-dessus. J'ai eu la chance d'être choisi. Puis depuis, j'ai sévi dans ce domaine, si on peut dire. Là. dans le fond, avec l'équipe de Réseau de Vinci, au début, on faisait beaucoup les programmes d'efficacité énergétique, excusez-moi, Renault Climat, Novo Climat. Ouais. Mais Marc, le président de l'entreprise, lui, avait toujours une vision de faire des services le plus complet possible pour le client. Puis c'est un peu là qu'on a poussé de plus en plus les services d'expertise connexes avec toute l'expérience qu'on avait forgée puis la connaissance qu'on a là.
Puis directeur technique chez Réseau de Vinci, on a besoin de quoi comme qualificatif, école, études, etc.?
Oui, exact. Moi, dans le fond, c'est ça. J'ai fait ma technique en architecture. Puis, ben, évidemment, c'est avec l'expérience qu'on peut prendre, avec tous les projets qu'on peut voir aussi, c'est de gratter, c'est de prendre l'information. Puis, j'ai quand même la chance d'avoir eu l'opportunité que Marc me laisse faire justement de la recherche, moi je pourrais dire me former par moi-même, prendre des formations externes, tout ça pour vraiment amener le plus de bagages possible vers l'entreprise. Puis il y a une belle confiance là, qui m'a été donnée comme ça.
Oui, puis je pense que tu nous disais en pré-entrevue que c'est un peu un concours de circonstances qui t'a amené vers cette formation-là,
ouais,
finalement.
Exactement. Dans le fond, j'ai fait comme bien des gens sciences de la nature au cégep, puis je savais pas trop vers quoi je voulais me diriger. Puis durant le processus, je savais que je compléterais pas ça, j'irais vers autre chose. Puis de fil en aiguille, on a eu à participer avec ma grand-mère à l'époque qui vendait à la résidence, puis tout ça, il y a eu une petite expertise légale qui a dû être faite, puis mes parents ont appuyé beaucoup ma grand-mère à ce niveau-là. Puis, c'était intéressant, crime. Je vais commencer ça au cégep l'an prochain. Technique en architecture, c'était intéressant. Puis, ce qui est drôle au bout de la ligne, c'est que Louis Parent, avec qui, en fait, qui a fait l'expertise à cette résidence-là, chez qui j'ai fait mon stage en fin de technique, ben maintenant, on fait encore des affaires avec lui à distance. Lui au Saguenay, nous à Québec. On est encore, on se connaît encore à ce niveau-là. Fait que c'est un drôle concours de circonstances, ah oui, comme tu dis.
Puis, tu étais un gars de Chicoutimi, dans le fond.
Exactement.
Okay.
Chicoutimi Nord, pour être plus précis.
Parce que là, tu sais, il ne faut pas se mouiller avec le lac puis le Saguenay. Là,
non, faire attention. Non, c'est touché, avec... je t'ai laissé
aller. Le meilleur exemple que je peux donner, entre le haut du lac puis Chicoutimi, on va parler de à peu près 2 heures de route. Ben, mettons, entre Montréal et Québec, c'est à peu près 2 heures de route. C'est autant l'exemple que je donne pour rire.
Ouais, ouais, ouais.
Pour mieux pareil.
Pour non, mieux cadrer, là, qu'est-ce que c'est comme différence.
Exact,
là.
Je le dis à la blague, c'est pas grave. Ah,
oui. Puis, Réseau de Vinci, expert en bâtiment, c'est quoi les expertises que vous faites en général?
Ouais,
en les fait, services que vous offrez?
Oui, c'est ça. Dans le fond, on va toucher un peu tout ce qui va avoir rapport à l'enveloppe du bâtiment. Donc, ça peut être soit des inconforts, des problèmes d'efficacité énergétique, des projets de rénovation à venir. Donc, on utilise, oui, l'inspection visuelle, mais on essaie d'apporter des volets technologiques avec la caméra infrarouge, avec l'infiltromètre qui sert à faire des tests d'étanchéité, dépressuriser les bâtiments. Mais on va intervenir dans la résolution de problèmes pur et dur là, pour des particuliers, pour des commerces, pour des institutions, peu importe. Puis on a des aussi au niveau de l'estimation budgétaire. Donc, ouais, on n'est pas un entrepreneur en construction. On a un département d'estimation qui aide soit des généraux, soit des particuliers, soit des autoconstructeurs. C'est un peu ce qu'on peut faire là, quand il y a des problématiques ou quand on veut avoir l'état d'un édifice, on va mettre toutes les actions possibles pour sortir ces informations-là.
Puis votre clientèle est quand même assez large, comme tu dis, autant résidentiel, autant les entrepreneurs.
Exactement, on vise le bâtiment en fait, c'est ce qu'on vise. Donc n'importe quel propriétaire de bâtiment, peu importe le type, ben, à ce moment-là on peut venir intervenir. Puis aussi des fois soutien à des professionnels, autant les entrepreneurs, ça peut être aussi avec des firmes d'architectes, des firmes d'ingénieurs, avec ce qu'on utilise comme technique sur le terrain, comme technologie aussi. Des fois, ça peut donner un bon appui. Là. Puis, sans compter, on fait beaucoup de simulations énergétiques. Donc, pour des projets qui peuvent se qualifier à des incitatifs, soit des institutions financières, soit, exemple, la SCHL, ben, y a des études qui peuvent être faites pour ça, pour démontrer le bilan du bâtiment tel que le code standard, tel que prévu au plan, puis émettre des recommandations si on a des cibles spécifiques à atteindre. Donc, c'est un peu tout ce qu'on peut faire là, à ce niveau-là. Là.
Puis l'équipe, ça ressemble à quoi au bureau? Votre équipe à l'interne?
En fait, on a des technologues d'architecture, technologues en mécanique du bâtiment, puis aussi, dans le fond, on a un département d'estimation là, à ce niveau-là.
Donc, tu chapeautes tout ça un peu?
En partie, dans le fond, je fais le soutien technique en autant que possible, puis quand je connais pas la réponse, je vais trouver les moyens de la retrouver.
Parce que c'est sûr que vous avez des partenaires, des ressources à l'externe nécessairement pour toutes les expertises plus pointues.
Exactement. On fait affaire, c'est sûr, à l'interne, on ne traite pas la structure proprement dit. Donc, il y a un ingénieur avec qui on fait affaire. On a un bon partenariat avec le PCHQ aussi. Là, on est membre à PCHQ, mais dans certains cas, on a un petit coup de fil. Peux-tu me donner un coup de main sur ça? Puis à l'inverse, Mathieu, j'ai telle affaire, as-tu déjà eu un historique de ça? Ouais. Fait qu'on a un bon soutien à ce niveau-là aussi.
En commun avec Guy puis Mathieu.
Exactement, oui, vraiment, on parle souvent, on s'entend bien. Super. En tout cas, j'espère.
Puis au niveau, tu sais, on parlait d'entrepreneurs, etc., mais vous avez aussi une niche qui se développe de plus en plus, puis surtout avec les nouvelles réglementations qui arrivent sur la copropriété. Est-ce que vous faites justement de l'estimation de fonds de prévoyance ou de voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de l'état de l'immeuble?
Oui, exactement. Dans le fond, on peut pas faire le fonds de prévoyance à ce niveau-là. Par contre, on fait des, on appelle ça le rapport d'état d'immeuble. C'est vraiment de constater les parties communes du bâtiment, qualifier la durée de vie utile. Puis avec notre département d'estimation, ça nous permet de calculer le coût de réparation ou de remplacement. L'avantage qu'on peut offrir à ce niveau-là, c'est qu'on va vraiment inspecter le bâtiment au niveau technique puis au niveau expertise en même temps. Donc, c'est pas juste d'évaluer la durée de vie utile, mais c'est de comprendre pourquoi c'est une détérioration qui est accélérée ou quelque chose. Fait que ça nous permet d'aller émettre des recommandations complémentaires à tout ça. Là.
Parce que c'est pas toujours les fiches du fabricant ou du fournisseur qui dit que la toiture va durer, comme tu nous donnais un exemple, 20 ans, qui fait que dans l'installation type, à l'endroit précis, ça va être exactement ça, sa durée de vie. Fait que
c'est exactement ça.
Vous pouvez le constater sur place, voir les contraintes.
Exact, comprendre pourquoi il y a une détérioration. Meilleur exemple pour les greniers, c'est la ventilation du toit. S'il est mal ventilé, oui, c'est un bardeau 25 ans, mais après 15 ans, les feuilles se détachent, il n'y a plus de granulats, plus rien. Ben, c'est pas à cause du produit proprement dit. Des fois, c'est l'édifice qui a mal été conçu ou un édifice qui est âgé, qui n'avait pas la même application, même norme. Puis,
vous pouvez faire le listing des travaux, la durée de vie utile des matériaux, puis à partir de là, quelqu'un peut mettre le côté financier là-dedans.
Peut budgéter.
Budgéter,
exactement.
C'est ça.
Puis souvent, tu sais, on va le mettre sur plusieurs années, 25, 30, 40, 50 ans, là, tout dépendamment du type d'immeuble aussi. Puis par la suite, ben, tu vas venir réduire aux entretiens des 5 prochaines années. Puis tu vas pouvoir prévoir aussi les différents frais qui vont être associés à ça. Là.
Vous estimez aussi, donc vous pouvez nécessairement donner peut-être une idée d'une portion des travaux.
Ouais,
puis après,
exact.
Les gens vont les planifier dans le temps.
C'est ça, exactement. Donc, on ne fera pas la planification. On va calculer, remplacer tel élément du bâtiment. Ça coûterait X en 2020, puis X au bout de la période, 10 ans, 15 ans, 7 ans.
C'est ce qu'un inspecteur, proprement dit, ne fera pas.
Pas se poser normalement, non, c'est ça.
C'est très rare que ça avance sur des prix. Ou
exact, parce que ça prend vraiment le côté estimation à ce niveau-là. Puis, dans le fond, on ne le calcule pas au pied carré, c'est vraiment selon le projet réel, parce que des fois, il peut avoir l'implantation du bâtiment peut influencer l'échafaudage, la gestion des déchets, la gestion du chantier.
Ouais.
Ça peut influencer, j'exagère, mais du simple au double, le coût d'un projet. Là.
Fait que vous prenez le temps de vous déplacer sur chacune des évaluations que vous faites.
Tout à fait.
C'est super.
Puis vous avez en plus le département d'inspection, je crois aussi.
Ouais,
vous faites
exactement.
L'inspection de bâtiments résidentiels, commerciaux.
Exactement, dans le préachat, prévente. Là, le prévente commence à être quand même populaire au sens que les gens, ben, y a une tendance, en tout cas façon de parler, où on sait que les gens sont de plus en plus agressifs sur le vice caché, ainsi de suite. À ce moment-là, en faisant le volet pré-vente, avant de vendre son édifice, on peut soulever les points de vigilance qu'il peut y avoir. Bon, il y a ça qui vont être à réparer ou ça qui est un indice d'un problème, mais ça permet au propriétaire actuel d'investiguer là-dessus puis de ne pas se faire taper sur les doigts plus tard ou au moins de vendre en connaissance de cause.
Ouais, c'est bon ça. Est-ce que tu constates ça un peu, toi? Est-ce que tu en vois ou c'est encore au début?
Je vais te dire oui puis non. Tu sais, les vendeurs préfère souvent avoir la surprise plus tard que de le savoir avant. T'sais, on vit encore avec cette situation-là.
Ben, les gens
payent pas beaucoup pour du préventif. Hein. C'est plutôt rare. On essaye de faire ce mouvement-là, mais
en même temps, tu contrôles un peu ta transaction. Est-ce que l'acheteur reconnaît généralement ton inspection comme la sienne qu'il ferait?
Ben, t'sais, nous, à titre déonto, on est obligé de recommander à l'acheteur de faire quand même son inspection. Ouais. Puis, t'sais, l'inspecteur, lui, voudra pas se fier au rapport d'inspection qui a déjà été produit. Fait qu'il va produire son rapport. Fait que là, on va arriver avec deux opinions complètement différentes. Qui peut être bien dans certains égards, mais tu sais, des fois, il y en a un qui va mettre un accent sur des éléments qui vont être plus importants pour lui, tandis que l'autre va mettre des éléments plus importants pour lui. Puis quand on jumelle deux rapports en même temps, au lieu d'avoir juste une problématique, ben là, tu te retrouves avec deux problématiques parce qu'ils ont été mentionnés dans chacun des rapports.
Exact. Ouais.
Fait que, tu sais, pour le moment, les vendeurs sont comme encore...
On sait pas, ça nous fait moins mal.
Ouais, ils sont encore frileux un peu là-dessus. Puis vient aussi tout le processus de négociation qui se fait après aussi une inspection. Tu sais, il va arriver aussi des problématiques qui vont se faire. Il y a une certaine correction, un certain entretien à prévoir sur un bâtiment. Tu sais, moi, je dis toujours aux clients, de 1 à 2 % de la valeur de la propriété, vous achetez une maison de 300 000, attends-toi d'avoir 3, 4, 5 000 piastres. Tu sais, il va avoir des scellants à changer, il va avoir des éléments à corriger. Le chauffe-eau qui est près de 10 ans, il va falloir que tu le prévois dans le temps aussi. Mais d'un autre côté, on veut pas toujours juste renégocier. On veut avoir un bilan de santé d'une propriété. On veut savoir si les composantes sont en bon état versus leur âge utile. Mais tu sais, les vendeurs, ils veulent pas se faire alarmer trop, là.
Non, c'est ça. Puis c'est sûr que dans la game de négociation, je pense aussi que tout le monde s'attend un petit peu à m'en retirer un peu dans le processus transactionnel. Fait que si t'as fait faire l'inspection au départ, tu dis que je mets mon prix selon ce que j'ai constaté puis je bouge pas de là. Peut-être que c'est pas facilitant dans la démarche de vente.
Non, exactement.
Fait que changement peut-être à venir. Là.
Ouais, peut-être à venir, mais je vous garantis que pour le moment, là,
c'est... Mais c'est fun que vous l'offriez au moins.
Exact. Puis on en voit quelquefois, là, tu sais, par exemple, sur des propriétés où ce que les gens, par exemple, sur une succession, savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont acheté, etc. Puis ils vont vouloir avoir le bilan de santé pour avoir une opinion plus juste de qu'est-ce que ça vaut comme propriété. Parce que, tu sais, ils n'ont pas habité la propriété, ils se retrouvent nouveaux propriétaires d'un bâtiment qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais été. Ben, tu sais, c'est là que ça devient important. Selon moi, c'est là que ça devient... que ça prend plus son sens par rapport à tout ça.
Ben, c'est exactement ça. C'est pas applicable pour tous les édifices. C'est pas nécessaire pour tous les édifices, mais dans certaines situations, ça peut être pertinent. Ou quand on sait qu'il y a déjà eu des problèmes puis on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres bobos reliés à ces problèmes-là, ben, ça permet d'avoir la tête plus...
Ou peut-être plus dans le commercial, ou peut-être des fois le préventif serait plus...
Oui et non.
Pas vraiment plus, non?
Un peu le même contexte. Puis là, on parle de plus gros chiffres aussi. Là, fait que tu sais, souvent, on veut-tu vraiment le savoir, on est peut-être mieux de le négocier après. Puis de le négocier après sur un prix qu'on ne paye pas coûte toujours moins cher que de le sortir de nos poches pour le faire réparer. Il y a toujours cette notion-là aussi qui est à prendre en considération. Écoute, Renaud, on est obligé d'aller en pause. Je te remercie infiniment pour notre premier segment. Réseau de Vinci, expert en bâtiment. On revient tout de suite après la pause.
96.9.
De retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Je suis avec Kevin Filion, co-animateur depuis plusieurs saisons. Je te remercie toujours, Kevin, d'être là.
Au moins trois.
Ouais, c'est ça. Puis je trouve qu'on prend notre place, puis on réussit maintenant à avoir des émissions. Ouais. Moi, je trouve plus dynamique. C'est beaucoup plus le fun aussi, dans le sens que on a développé une certaine cohésion ensemble. Puis,
ouais. Puis on avait des feedbacks aussi pendant le confinement, des gens qui nous écrivaient sur la page, c'est le fun.
Ouais, vraiment. On a hâte. On aimerait ça parler de ça, etc. Fait que on a trouvé ça vraiment le fun. Puis je vous dis ça comme ça, by the way, hier, j'ai rencontré un client où ce que j'ai fait une présentation pour offrir nos services en tant que courtier immobilier, etc. Puis il dit, j'écoute une émission à radio, là, à CGMD. Je fais, ah ouais, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, la bulle immobilière. Je dis, ah ouais, c'est qui l'anime? Puis là, tu sais, il dit, c'est Jean-François Morin, là. Je dis, ah ouais, j'ai dit, pis, comment tu trouves ça? Il dit, écoute, on adore ça, on les a tous écoutés depuis le début.
La main, c'est moi.
Puis là, tu sais, c'est ça, là que je me suis plugué, puis j'ai vraiment trouvé ça cool, là. Puis, tu sais, une fois qu'on était dans un 5 à 7 aussi, puis il y avait un paquet d'investisseurs qui étaient là, dont trois femmes, puis t'es comme, waouh, c'est vous autres, la bulle immobilière, c'est malade, là. J'écoute ça sur Balados, etc. Parce que justement, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Fait que, tu sais, on est quand même d'être à l'écoute de notre émission partout, mais on est aussi sur notre site web jeanfrançoismorin.ca. Dans la section radio, on a tous nos podcasts. Bientôt, on va mettre nos vidéos aussi parce qu'on enregistre maintenant en vidéo. Mais avant de parler de nous, hein, parlons du réseau de Vinci avec Renaud. Renaud, on a des questions par rapport à tout ça. Là, c'est vous avez une entreprise qui offre énormément de services, autant aux entrepreneurs que des individus ou pour offrir différents services. C'est quoi les soutiens puis les expertises que vous pouvez faire par rapport à tout ça?
Oui, mais en fait, on peut offrir, comme je disais un petit peu tout à l'heure, on travaille beaucoup dans la résolution de problèmes puis dans le soutien technique en réalité. Donc, autant avec notre département d'estimation, exemple, on peut compter des plans. Oui, c'est beau de compter le coût de construction d'une maison X, d'un agrandissement X, quoi que ce soit, mais on apporte aussi vraiment un regard technique. Donc, exemple, en regardant les plans, on se rend compte qu'il y a un isolant qui n'est pas conforme ou qu'il y a un assemblage qui n'est pas adéquat, soit de la norme du fabricant, soit selon le code du bâtiment directement. Ben, ça nous permet d'aider l'entrepreneur à corriger son projet puis de le faire pour qu'il soit adéquat puis satisfaisant aussi au niveau de la livraison, là.
Il y a plusieurs bibles à laquelle se reporter. Là. Tu dis le code, tu dis les normes du fabricant, ça peut être la GCR si c'est un avis.
Exactement, c'est ça.
Fait que des fois, soit les architectes ou les entrepreneurs ne se retrouvent pas au travers de tout ça. Fait que si vous avez cette expertise-là, comme tu dis, en plus de compter, vous pouvez bonifier le plan.
Exact, on peut commenter. Puis des fois aussi avoir des projets de différents entrepreneurs, de différents architectes ou ingénieurs ou quoi que ce soit. Ben, des fois, on voit un détail technique qui est plus facile à réaliser, peut-être même moins coûteux, ben ça nous permet des fois de le refiler à un autre, d'y prêter l'idée, d'améliorer son projet. Donc, c'est ce qu'on est capable d'apporter avec notre regard technique. C'est pas juste de compter pour compter dans notre département d'estimation, par exemple.
Parce que, tu sais, effectivement, que les codes, tu sais, national du bâtiment qui vient mentionner tout ce qu'on doit faire au niveau des composantes des murs. Par contre, quand on arrive dans la confection, on a le droit aussi d'avoir un peu notre esprit créatif pour rendre ça plus étanche, plus agréable. T'sais, on avait reçu aussi Monsieur Nadeau, qui lui voulait rendre toujours les constructions conformes, solides, puis esthétiques aussi, là. Puis tu sais, suivait beaucoup les normes, oui, de comment qu'on doit l'appliquer, mais dans le réel, comment qu'on doit tweaker un peu qu'est-ce qui est écrit dans le livre pour faire en sorte que ça soit encore plus performant, là. Ouais. Fait que c'est un peu ça que vous réussissez à amener
tout à fait,
dans la réalisation des projets.
C'est ce qu'on tente d'apporter quand c'est possible de le faire, justement, de pousser ces informations-là, ben on aide nos clients à le faire. Puis comme tu mentionnais, ben oui, il y a le code du bâtiment, qui est à peu près la ligne directrice de base, mais après ça, on va avoir des fois des normes de fabricants qui vont être supérieures à ce que le code va demander. Donc après ça, ben, c'est d'assembler un peu tout ça pour réussir à faire un projet qui se tient debout puis qui est réaliste à construire aussi. Là.
Puis parlons-en de ça, des travaux, à qui qu'on se fie. Tu sais, il y a le code national du bâtiment, il y a les normes du fabricant, par exemple, les matériaux de Bardot vont vous donner un guide d'installation. Par la suite, il y a l'entrepreneur, comment que lui va l'appliquer au niveau de sa réalité, parce qu'il y a des entrepreneurs qui, eux autres, vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, puis à la place de mettre 6 clous sur la feuille, ils vont en mettre 4 pour clencher les projets le plus rapidement possible puis de faire des économies. Je veux pas dire que ça existe, mais on l'a déjà vu. Puis, tu sais, il y a les normes de la GCR aussi sur lesquelles on doit s'appliquer. Fait qu'à qui qu'on se fie, de quelle façon, puis comment qu'on réussit à valider que l'ensemble a été bien conçu.
Exact. Ben, la plupart du temps, notre code de bâtiment va être la ligne de base, puis GCR va servir de ça pour trancher si c'est conforme ou non conforme. Pour eux, il n'y aura pas vraiment de zone grise au sens que si un mur doit être coupe-feu a telle résistance, s'il n'atteint pas la résistance, ben c'est pas satisfaisant. Je nomme cet exemple-là, mais il peut avoir sur la mise en œuvre des matériaux. Ensuite, on va tomber ben, vraiment avec la norme du fabricant pour que lui honore sa garantie, parce qu'en réalité, le code va statuer sur un assemblage approximatif, si on peut dire, parce que selon l'épaisseur de la planche, ça peut varier. Selon le grain de bois, ça peut varier aussi. Donc, le fabricant, lui, va mettre une petite couche par-dessus. Quand il va être plus restrictif, ben, on n'aura pas le choix d'aller atteindre ce que lui va nous demander pour tenter d'honorer sa garantie. Puis je dis bien tenter parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure avant de reprendre, mais c'est cet élément-là, des fois, à cause justement de la mise en œuvre, l'entrepreneur qui est habitué de le faire comme ça, puis c'est un déclin de bois, c'est un déclin de bois, je le pose comme ça. Non, lui, il y a une petite particularité, ben t'aurais pas dû clouer telle profondeur, telle impaction ou tel espacement. Ben, à ce moment-là, en effet, ça peut faire tomber une garantie d'un produit qui semble pas se détériorer pour le moment, mais sur 5, 10, 15 ans, ben c'est là justement que la planche peut devenir un petit peu plus lâche, peut se détacher ou quoi que ce soit, puis causer des problématiques de qualité au produit, au bâtiment.
J'ai une question à 100$ pour toi.
Ouais.
Est-ce que ça se peut que certaines de ces normes-là rentrent en contradiction? Parfois?
Je te dirais en contradiction, pour ma part, j'en ai pas constaté spécifiquement, mais ils vont habituellement être égales ou plus...
ou supérieures.
Supérieures, exactement, c'est ça, ouais, plus restrictives.
Okay. Fait que les fabricants, tu sais, par exemple, le code mentionne de mettre une composante de telle façon, ben, le fabricant pourrait dire, écoute, oui, le code le mentionne, nous, pour assurer une meilleure qualité, puis notre garantie, ben, on vous le demande de le faire d'une meilleure façon, tu sais, pour être sûr que d'honorer
que
la garantie.
Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de me casser la tête sur des normes de ventilation, de revêtement. Ouais. Sur une installation type d'une rénovation, le code, le fabricant d'une portion du revêtement, le fabricant de l'autre portion du revêtement, les normes de ventilation du soffit, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'ils n'étaient pas en contradiction, mais du moins, c'est quand même assez difficile.
Ben, des fois, c'est difficile d'amalgamer parce que là, exemple, quand tu vas avoir deux revêtements dans la même portion de mur, mettons moitié du bas, moitié du haut, ben là, il faut que tu agences ton espace d'air pour que ça se rejoigne, tu vas avoir un solinage à placer, tu ne veux pas boucher ta ventilation en haut pour le dégagement que tu vas avoir.
L'esthétique, fois, toujours à placer là-dedans.
Au bout de la ligne, c'est ça. C'est le coup d'œil, c'est ce qui est le plus évident, mais c'est ce qui est le moins, entre guillemets, important au sens de l'intégrité du bâtiment et sa durée de vie.
Oui, puis de le faire comprendre, cette partie-là, au client.
C'est ça que j'allais dire.
Palaille, hein?
Ouais.
Puis ça se peut-tu que... Puis écoute, c'est peut-être un mythe urbain, mais j'aimerais ça quand même avoir ton idée par rapport à ça. Est-ce que ça se peut que les fabricants essaient soit de mettre des normes un peu plus restrictives pour faire en sorte de ne pas toujours honorer leurs garanties? Parce que souvent, puis je te donne un exemple de toiture parce que ça a été flagrant des dernières années, ça s'améliore de beaucoup. Mais tu sais, souvent, on avait des toitures 25 ans, mais après 15 ans, il fallait déjà les vérifier. Puis je parle pas de composantes où ce que ils vont être prématurés à cause des arbres, à cause d'un environnement particulier, mais beaucoup plus au niveau des produits. Est-ce que ça se peut que c'est les fabricants, justement, augmentent les normes pour pas avoir à garantir leurs produits?
Jusqu'à quel point c'est un peu dur à dire parce que dans le fond ils vont vraiment tester leurs produits tels que fabriqués, tels que vendus puis tels que le guide d'installation. Fait que c'est sûr qu'après ça eux ils se rendent compte oh ben tes feuilles de bardeau il leur manque tout un clou ou tu chevauches un pouce trop court ta feuille, c'est exagéré mais moi j'ai conçu mon produit pour qu'il soit dans des bonnes conditions puis qu'il ait sa durabilité normale pour telle installation. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu... des fois, c'est tiré par les cheveux. C'est un peu trop précis, un petit peu trop de détails. Puis oui, des fois, ça fait tomber certaines garanties. Mais de là à dire que c'est trop loin pour créer ça...
OK. Fait que tu sais, ça reste dans la mesure du raisonnable quand même.
Oui, exactement. Ouais. C'est ça, on ne tombe pas avec
l'exagération,
quatre couches pour faire une couche qui est normale.
Assurément qu'ils veulent que tu utilises tous leurs produits à toutes les couches et toutes les étapes.
Ben oui,
ça,
oui,
ça c'est sûr, mais pas une sous-couche d'un fabricant
ben non,
une
ben non.
D'un autre. Là, tu n'as pas de garantie c'est de mortel. Personne.
C'est ouais, ça, c'est exactement. Ça. C'est pour, nous, on a installé justement la maison sur notre terrasse couverte. C'était tout ça, Prima. Puis, tu sais, il y avait une sous-couche qu'il fallait mettre aussi. Puis, effectivement, que si j'avais pris un autre sous-couche, ça n'aurait pas fonctionné. Là.
Exact. Puis, on le voit de plus en plus avec les répertoires de matériaux, justement. Ben souvent, c'est pas juste un produit qui va être homologué pour l'installation, pour reconnaître les performances, puis même les valeurs isolantes ou les plans d'étanchéité, mais c'est vraiment l'assemblage complet. Ouais. Donc, la couche 1, la couche 2, la couche 3 qui font un tout qui vaut cette performance-là. Comme tu dis, ben, les autres ils ont leur recette, puis elle est reconnue, puis elle a un numéro, elle est étampée. Mais si tu changes une des deux couches pour prendre un autre produit, là...
On ne peut plus garantir, parce que nous, notre recette était pour celle-là.
Je pense que ça améliore l'industrie aussi, Jeff, dans le sens où, tu sais, l'exemple des toitures, ils veulent aussi que tu vérifies la ventilation, puis toute la mécanique de l'air en dessous. Éventuellement, ce que ça fait, c'est qu'un entrepreneur qui va installer ou qui change une couverture, ben, il se casse un petit peu plus la tête, puis il s'assure que son assemblage... toute la mécanique de ventilation est bonne aussi, et non juste dire, gars, j'ai remplacé ta toiture. Bonne journée, je suis parti.
Il devient pas un jobber de faire une toiture en avant-midi puis une toiture en après-midi. Là, fait qu'il devient un gars un peu plus sophistiqué dans sa conception.
Investigue un peu plus dans son projet.
Si on recule, mettons, même au début des années 1900, le code du bâtiment qui existait à cette époque-là devait avoir peut-être 12 pages, là, mais c'est pas très important. Mais c'était déjà l'idée d'avoir le bâtiment comme un concept puis un système complet, pas juste un revêtement sur une ossature sur un revêtement intérieur, c'est vraiment complet. Donc, justement, le grenier, c'est un bon exemple avec la ventilation. Ben oui, le revêtement, il y a une certaine valeur. Le bardeau, il y a une valeur dans sa durée de vie. Mais on va avoir la ventilation qui est nécessaire. On va avoir la pente qui est nécessaire, l'exposition, tout ça pour vraiment évaluer la situation complète.
Puis je pense que, puis ça, c'était pas dans notre pré-entrevue, puis on en jase comme ça, mais je pense qu'aussi, la conception des bâtiments évolue pour faire en sorte qu'on arrive avec des meilleures conceptions de nos composants, de nos murs, etc. Mais d'un autre côté, ça amène aussi d'autres problèmes. Tu sais, justement, des maisons de 1900, c'est des maisons qui étaient pas d'échangeur d'air, ultra ventilées par l'air, parce que, tu sais, l'air s'infiltrait partout.
Naturellement, ouais.
Qui faisait en sorte que ces maisons-là fléchissaient, pliaient, mais pourrissaient jamais.
Exact.
Tu sais, l'eau, elle restait jamais en place. Tandis que maintenant, on fait des composantes où on fait une conception de maison aux normes maintenant, tu sais, Nova Climat ou peu importe, qui devient des maisons ultra étanches, qui font en sorte que tu es obligé d'avoir un échangeur d'air, un poumon mécanique à l'intérieur, ouais, pour t'assurer d'avoir pas une pression négative à l'intérieur de ta propriété.
Et des fois,
puis là, tu es obligé en plus d'avoir des fois des ta fan, tu es obligé d'ouvrir ta fenêtre parce que sinon l'air sort pas dehors, etc. Fait que tu sais, ça l'amène d'autres problématiques. Puis est-ce que, puis tout le monde doit se casser le basic aussi à trouver des meilleures normes pour assurer des meilleures composantes puis des meilleures conceptions. Mais est-ce qu'on en voit ça de plus en plus des problématiques qui arrivent avec ça?
Oui, tout à fait. Puis ce qui est le plus dommage dans un certain sens, c'est que le volet de la mécanique du bâtiment puis la ventilation centralisée, chauffage c'est tel que tel, ça rentre dans notre mécanique. Puis je veux dire, il fait froid, on monte le chauffage, on va s'arranger. Mais la ventilation elle-même, ce qui est dommage, c'est qu'elle est laissée pour compte un petit peu à l'occupant. Si monsieur trouve ça tannant d'entendre siffler un petit peu l'air de la grille, il ne fait pas fonctionner son échangeur, mais la maison en a besoin, elle, parce que, comme tu dis, les vieilles maisons respiraient d'elles-mêmes. Il y avait un renouvellement d'air naturel par la pression, par effet de cheminée, mais maintenant, ça prend une pression qui est faite par un ventilateur qui va rentrer de l'air frais, sortir de l'air vicié, puis qui va renouveler. Fait que si l'occupant ne le fait pas fonctionner, on a un problème parce que le concept total de la maison, on a besoin. Dis la maison, ça peut être un bâtiment, peu importe le type. Puis au-delà de ça, ben, ce qui est dommage un petit peu aussi, c'est que le volet de la ventilation mécanique est souvent un peu laissé pour compte par l'occupant de l'utilisation, mais des fois aussi au niveau de la conception et la qualité de mise en œuvre, les échangeurs d'air sont pratiquement jamais vérifiés pour l'ajustement. C'est beau de mettre un échangeur, de mettre un contrôle qui marche, une grille dans toutes les pièces, mais si au final, mon échangeur alimente 10 pieds cubes d'air puis en extrait 200, ben là, j'ai une pression négative extrême. Mais
c'est un ajustement très simple à faire.
Exactement, c'est super simple. Il y a 7-8 clés, 2 clés sur l'échangeur d'air, c'est barré, c'est fini. Ouais. On a un ajustement satisfaisant qui va être confortable pour l'occupant, qui va maintenir un niveau d'efficacité énergétique aussi, parce que rentrer trop d'air frais ou évacuer trop d'air vicié, ben ça a un certain coût à ce niveau-là. Puis ça va créer une pression positive ou négative pour les appareils de chauffage.
On avait déjà parlé justement avec Danny McNicol qui était venu ici, que le confort du bâtiment, c'est pas nécessairement le confort de l'habitant.
Non, c'est
parce que les deux, des fois, sont en contradiction, mais ultimement, c'est l'habitant qui a le contrôle. Fait que des fois, il pense pas toujours à sa maison, finalement, dans son choix. Puis je pense qu'il y a aussi les normes architecturales, là, qui changent aussi. Tu sais, tu donnais un exemple, le bâtiment change de façon générale. Les architectes, ils font toutes sortes de constructions, des fois un peu plus pétées ou un peu plus flyées.
Plus avancées, mettons.
Ouais, c'est ça. Fait que là, des fois, c'est là que c'est intéressant des gens comme vous qui, oui, vont faire le calcul du coût du projet, mais qui vont aussi, comme on dit tantôt, le bonifier ou dire, regarde, là, t'as peut-être une noue, t'as peut-être un endroit où c'est à risque au niveau de la neige.
On peut avoir des faiblesses un petit peu, là.
Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les cordes à leurs arcs. Tu sais, ça dépend toujours de l'intervenant, mais ils ne peuvent pas nécessairement avoir toutes les problématiques du bâtiment qui vont suivre le design ou la conception plus visuelle du projet.
Exact.
Là.
Puis, dans le fond, entre réaliser un projet, oui, sur papier, puis l'ériger en chantier, c'est une chose, mais nous, on a l'envers de la médaille qu'on sort souvent dans la résolution de problèmes. C'est rare que les gens nous appellent pour dire « Viens voir, tout est beau chez moi, l'eau coule pas. » Ça arrive pas, c'est quand ça coule qu'on y va. Là. Donc, à ce moment-là, ben, on a vu les déficiences, les problématiques des différents assemblages qui sont typiques. Ben, ça nous permet des fois de lever un petit drapeau et de dire « Regarde ça, fais attention à ça. » Le détail peut être bien dessiné sur le plan, mais si l'entrepreneur qui l'assemble, des fois, il y a un petit manque, banque ou il comprend pas la raison de mettre dans tel ordre ou telle priorité, ben ça peut causer des problèmes à court terme, long terme.
Puis tu sais, on a parlé beaucoup de l'enveloppe là, puis on a parlé de l'échangeur d'air qui est plus mécanique.
Oui.
Est-ce que tu peux nous faire un topo global de qu'est-ce que c'est les différents, tu sais, les distinctions entre une enveloppe et les éléments mécaniques?
Oui, tout à fait. Dans le fond, notre enveloppe, c'est vraiment notre coquille qui va être extérieure. Fait que c'est notre barrière entre le froid l'hiver puis la chaleur à l'intérieur. Donc, c'est vraiment nos matériaux isolants, c'est notre étanchéité à l'air, notre plan par vapeur, notre imperméabilisation à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce qui va garder l'air du bâtiment conditionné, chauffé, climatisé, contrôlé, puis qui va permettre à l'occupant ultimement de s'abriter. Puis, ben, adjacent à ça, c'est notre mécanique qui permet notre chauffage. Donc, confort thermique dans les pièces, qui permet notre ventilation, notre déshumidification. Des fois, c'est combiné. L'échangeur d'air en hiver, il déshumidifie parce qu'il fait rentrer de l'air plus sec, puis il fait sortir notre air humide. Donc, il vient contrôler à ce niveau-là. Puis, on a les systèmes de climatisation. Dans une résidence, c'est toujours des équipements petits, si on peut le dire. Ce n'est pas des équipements énormes. Mais quand on tombe dans le commercial, il y a des équipements à très haut débit, des conduits beaucoup plus gros. Donc là, on tombe dans une deuxième vague. Nous, à l'interne, directement, on traite pas mal tout ce qui va être résidentiel. Mais on a des gens avec qui affaire pour, justement, quand on tombe dans le commercial, l'institutionnel, qui, eux, sont axés spécifiquement sur des gros équipements.
Puis, est-ce que tu veux te commettre par rapport au chauffage? Tu sais, justement, on a du chauffage des plaintes électriques, on a du chauffage à l'eau, on a du chauffage à l'air pulsé. Un système qui est plus performant que d'autres?
Bien, mettons qu'on va parler, il y a deux façons de le voir, disons. Au niveau rendement énergétique, l'achat d'énergie, si on peut dire, quand on tombe dans un système électrique standard, on achète un kilowatt puis on l'utilise. Donc, au niveau du rendement énergétique, ça reste le même. Par contre, c'est sûr que les équipements qu'on va avoir à eau chaude avec les calorifères vont maintenir une certaine température. Le calorifère lui-même va absorber cette chaleur-là, va pouvoir la rediffuser. Fait qu'au bout de la ligne, il y a un confort qui est plus continu, plus égal. Les systèmes à air pulsé aussi à ce niveau-là, parce que là, on fait vraiment cycler notre chaleur, on fait déplacer l'air. La plainte électrique, qui est le moins coûteux, le plus habituel qu'on voit, c'est sûr qu'avant d'avoir un confort dans la pièce, c'est un petit peu plus long. Ça crée une certaine convection, mais c'est devant la plainte, donc ça se déplace tranquillement dans la pièce. Fait que c'est sûr qu'au niveau confort thermique, les équipements centralisés, là, autant eau que air, ça crée un meilleur confort. Mais ça dépend un peu de l'usage qu'on a à faire aussi de nos environnements. Là. Dans une résidence, c'est pas trop compliqué, mais c'est de localiser les grilles ou les plaintes aux bons endroits, mais dans différents édifices plus commerciaux ou des bureaux, des équipements comme ça, ben là, ça peut être un petit peu plus touché des fois de localiser la grille au bon endroit exactement sous notre fenêtre pour éviter la condensation parce que là, on a un équipement qui est là, un comptoir, quelque chose. C'est toujours, pensez-y bien là, pour que la chaleur se disperse de la bonne façon.
Au niveau radiant, est-ce qu'on y va plus avec du glycol ou on y va électrique?
Je te dirais honnêtement, le confort final va être assez similaire. Ben franchement, là, on a souvent les regardés avec la caméra infrarouge, justement, quand les gens se rendent compte que le système fonctionne plus ou c'est froid dans une pièce ou quelque chose. Je dirais que le rayonnement qu'on va obtenir, la puissance qu'on va obtenir, assez similaire au niveau de l'occupant. Là.
OK, Krim, c'est vraiment cool. Ouais. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi pour la saison 5. On ne sait pas la saison 6, fait qu'on va, on va booker ça pour celle-là. On tient à remercier notre commanditaire que jusqu'à la fin de notre émission, on va parler justement avec Kevin Pépin pour le Copy Management, puis vient donner quelques tricks au niveau de l'investissement immobilier. Je vous remercie, on revient tout de suite après la pause.
CJMD 96.9.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin. On parle aujourd'hui de bâtiment. On parle aujourd'hui avec un expert en bâtiment, Réseau de Vinci, Renaud, Renaud Bergeron. Puis aujourd'hui, on a parlé de plusieurs composantes. On a parlé de garantie, on a parlé voir qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service par rapport à tout ça. Mais un des points que vous offrez, qui est pas une nouveauté, mais que de plus en plus les gens font cette analyse-là sur leur bâtiment, encore plus les copropriétés avec les nouvelles réglementations qui se mettent en œuvre, on parle de rapport d'état d'immeuble. Est-ce que tu veux me parler ou m'expliquer qu'est-ce que c'est en particulier?
Avec plaisir. Dans le fond, l'objectif du rapport d'état d'immeuble, ça a commencé beaucoup, comme tu le disais, avec les copropriétés. Dans le but un peu de prévoir leur fonds de prévoyance, d'avoir un peu l'idée générale des parties communes. C'est surtout ça qu'on évalue dans le cas d'une copropriété. Mais l'objectif, en réalité, c'est d'aller voir vraiment la durée de vie utile des différentes composantes qui seront observées. puis ultimement d'émettre des recommandations sur le maintien de l'intégrité de cet édifice-là, puis aussi de calculer le coût de chacun des travaux. Donc, si exemple, les fenêtres, bon, ben c'est des fenêtres qui ont 25 ans, on estime, disons, 5 ans de durée de vie utile encore, bon, parfait. Donc, le remplacement pour une composante similaire neuve coûterait tant aujourd'hui, coûterait tant au bout de la période. Et que ça permet comme ça aux gens de prévoir un peu un budget d'entretien, de maintenance de leur bâtiment. Puis aussi, ben, le regard qu'on va avoir, c'est un regard technique. Donc, si exemple, on se rend compte qu'il y a une détérioration qui est prématurée. Le meilleur exemple, c'est les bardeaux d'asphalte, 15 ans, puis c'est un bardeau 25 ans. Bon, comment ça se fait? Est-ce que c'est la ventilation? Est-ce que des pertes thermiques au grenier qui sont trop importantes? Est-ce que c'est carrément la mise en œuvre qui est déficiente? Ben, c'est ce qu'on est capable de sortir, puis de mettre les recommandations pour éviter que ça fasse la même détérioration une fois qu'ils vont le remplacer. L'utilité principale, c'est beaucoup dans les copropriétés. Mais on commence de plus en plus à le faire dans des bâtiments commerciaux aussi. Souvent, ben, avant de faire une transaction, justement, donc on sait qu'on va avoir telle réparation qui vont être à faire, telle détérioration, ben, ça permet un petit peu de négocier le prix en conséquence. Puis même des gens aussi le font pour leur résidence. Donc, moi, j'ai cette résidence-là depuis 15 ans, puis j'aimerais ça savoir un petit peu comment prioriser mes trucs, comment assurer que mon bâtiment va rester intègre, parce qu'en réalité, l'idée qu'on veut avoir, c'est de garder le bâtiment le plus durable possible, la façon qu'on va observer la situation, puis de maintenir ou restaurer son intégrité. C'est toujours la ligne directrice. Au bout de la ligne, oui, l'esthétique, c'est important, l'apparence du bâtiment, mais nous, on garde l'idée principale qu'on veut que l'intégrité puis la durabilité soient bonnes. Le développement durable, on en parle, mais de remplacer un bardeau aux 15 ans au lieu du 25 ans, c'est pas tellement développement durable. Donc, l'idée, c'est d'aller un petit peu vers ça.
Puis au niveau coût, là, on peut parler, admettons, d'un 8 logements à peu près, puis tu sais, là, il faut faire attention, là, parce que ça dépend de la localisation, du type de bâtiment, etc., là, mais tu sais, un 8 logements en briques, là, Limoilou, standard, là, ça pourrait représenter combien, ça, un rapport d'état d'immeuble?
Ça va rouler aux alentours, là, je te dirais aux alentours de 2000 quelques à peu près. Ça dépend si on a des plans, ça dépend aussi des problématiques qu'il peut y avoir, puis du nombre de parties à visiter. Si, exemple, il y a 8 trappes différentes pour aller au grenier, ben, c'est sûr que c'est un petit peu plus de temps. Mais on va toujours y aller de manière forfaitaire. Donc, pour faire l'étude complète, la visite sur les lieux, rapport, l'estimation des différents travaux.
Et puis, il n'y aura pas de surprise. Là. On s'entend sur un prix.
Exact.
On a eu le forfaitaire. On va avoir le livrable à fin qui va être exactement ce qu'on a parlé. Puis, il n'y aura pas de frais supplémentaires par rapport à ça.
Puis l'échéancier que vous regardez, c'est quoi? 25, 30 ans? 30,
ah, ben je te dirais, en fait, on va évaluer la durée de vie utile de l'élément.
Ce qui est en place.
Fait que si, quand on parle de maçonnerie, bon, on sait que ça peut durer très longtemps. Ouais, fait que c'est ça. Sûr que ces projections-là sont un petit peu moins précises, ouais. Au sens que juger quelque chose qui va faire 40 ans, ça peut être 45 comme ça peut être 35, là, mais...
On va leur checker dans 10 ans, là.
C'est ouais. Ça, exact. Mais il y a des éléments, justement, qu'il y a des points de vigilance aussi qui sont soulevés là, à ce niveau-là.
Puis on le fait. Excuse-moi, mais t'es sûrement plus au courant que moi, mais justement, que la loi 16 au niveau des copropriétés, ouais. Ça, maintenant, est-ce que c'est en force? Dans le sens, est-ce que c'est exigé? C'est sur le point d'être exigé au niveau des copropriétés?
Le rapport d'état d'immeuble n'est pas nécessaire.
Okay.
C'est vraiment d'avoir le fonds de prévoyance qui doit être fait. Par contre, le rapport d'état permet d'avoir une valeur qui va être un peu plus précise pour chacun des travaux, parce qu'en réalité, on ne comptera pas au pied carré le travail, l'élément, la composante, on va le calculer réel pour ce bâtiment-là, qu'est-ce que ça représente de le remplacer. Donc, justement, si l'implantation force des travaux différents ou quoi que ce soit, ça nous permet de l'avoir beaucoup plus précis.
Ça veut dire qu'il y a des fonds de prévoyance qui se calculent au pied carré.
Un peu plus.
Vraiment les règles du pouce.
Un peu plus au coût moyen du produit ou ainsi de suite, exactement. Tandis que là, ben, nous, c'est vraiment le projet d'estimation pour cet édifice-là. Puis, à la limite, on pourrait prendre deux édifices quasi identique côte à côte, mais il y en a un qui se ramasse sur une colline puis l'autre qui est plus là, ben juste l'accès au bâtiment va influencer le coût. Fait que le rapport il est pas tant transférable que ça de l'un à l'autre.
Okay. Puis tu sais, on va se le dire aussi, là, c'est rassurant d'avoir un rapport d'état d'immeuble aussi. Tu achètes une copropriété, puis tu sais, on va se le dire aussi, les copropriétés au Québec sont mal gérées. Souvent, c'est géré en cotisation spéciale. Tu sais, encore aujourd'hui, on a une transaction qu'on est en train de finaliser, puis ils ont la cotisation spéciale prévue était de 1 500 $, puis dans les derniers jours, ça l'a passé de 1 500 à 2 000, puis dans les derniers jours, ça l'a passé aussi avec une supplémentaire de 6 000. Fait que, tu sais, on avait une cotisation spéciale de 1 500 qui finalement...
C'est de l'inflation, ça?
C'est ouais. Vraiment énorme, là, puis ça a des impacts quand même assez importants.
Ouais, tout à fait. Oui.
Puis c'est un dépassement de coûts de travaux actuels, mais reste que on veut être sûr que ça va être bien géré, qu'on va savoir vers où qu'on s'en va. Puis d'avoir un rapport d'état d'immeuble, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'on peut le ramener sur 5 ans, sur les entretiens nécessaires à faire par rapport à ça, de le budgéter, qu'est-ce que ça va coûter dans les 5 ans, de mettre de l'argent dans un compte tout de suite, que ça se peut qu'on n'aurait pas besoin dans la première année, mais quand on va arriver à l'an 5, ben, on aura l'argent dans notre compte de banque pour le faire.
Exact. Ben, comme tu dis qu'on n'aura peut-être pas besoin, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'aura pas du tout besoin de tout de suite, mais on peut déjà commencer à le prévoir.
Exact. Mais en le prévoyant, par exemple, sur un 5 ans.
C'est ça.
Éventuellement, on a besoin de changer
toutes les composantes.
C'est ça, exactement.
Il n'y a pas rien qui est à vie.
C'est ça.
Mettons 100 ans. Mais
c'est
encore
ça.
Là,
ouais, c'est ça.
À ce moment-là, ben, c'est un peu l'idée qu'on a élaboré, c'est le format de notre rapport, si je peux dire. Là,
puis par exemple, pour un petit strip commercial là, standard, là, sans nécessairement d'avoir 25 commerces, mais un petit strip de 8 commerces, etc., est-ce que ça peut représenter aussi des coûts environ de 2 000-3 000 $?
Ça va être plus élevé un petit peu parce que
à cause des composantes mécaniques.
Oui, composantes mécaniques, puis aussi au niveau de la structure. Comme je disais tout à l'heure, à l'interne, on ne gérera pas nécessairement toujours ce qui va être structural. Donc à ce moment-là, surtout pour du commercial, on doit tomber avec un ingénieur. Obligatoirement. C'est sûr que là, on embarque avec un spécialiste de plus, mais qu'on compare sur le marché, façon de parler, ça revient au même. On a besoin d'avoir ce professionnel-là pour l'étude qui doit être faite de toute manière. Là.
OK, quand même super cool. Puis toi, Kevin, c'est-tu une analyse que tu fais sur l'ensemble de tes investissements immobiliers, à savoir, tu sais, justement, c'est quoi le portrait de mon immeuble, puis qu'est-ce que je dois prévoir dans les prochaines années, tu sais, au niveau de ton refinancement aussi, parce qu'il arrive aussi le refinancement où ce que c'est beau mettre de l'argent de côté puis de le prévoir, mais c'est beau aussi de le financer. Là. Tu sais, des fois, est-ce que ça fait partie des éléments que tu prends en considération dans différents projets?
Ben, c'est sûr que moi, j'ai peut-être plus l'œil où j'essaie de vraiment suivre ça autant que possible. Et effectivement, souvent, on est dans une torpille puis on faut trouver le temps pour faire ça. J'essaie de le faire systématiquement, un peu comme M. Côté nous l'avait dit, de gestion de côté, d'aller en début puis en fin de saison, inspecter les toitures, les choses comme ça. Est-ce que je me rends jusqu'à projeter quand va être la durée de fin de vie de mes fenêtres? Non, pas nécessairement. Des fois, on gère au problème quand il se présente, mais assurément, quand on achète et qu'on a une optimisation à faire,
La majeure partie des composantes aussi, on peut changer.
Ou là, on a le thinking de dire, écoute, ça, peut-être que ça serait diligent de le changer là, pendant qu'on a les mains dedans, puis qu'il va être il va arriver à sa fin de vie dans 5 ans, surtout si on a l'optique de le garder, parce que c'est un peu ça dans l'investissement immobilier. Des fois, on sait qu'on va retaper l'immeuble, entre parenthèses, pour le revendre versus le garder, le détenir des années. Fait que c'est ça qui joue un petit peu dans la balance au niveau de ce qu'on regarde, ce qu'on prévoit.
Certain, hein. Puis c'est sûr aussi quand toi, tu as un background qui te permet de bien l'évaluer quand même pour toi-même. Mais des
c'est
fois,
pas le cas de tout le monde.
Non, puis le copropriétaire, qu'il y en a un qui est informaticien, l'autre qui est dentiste, puis l'autre qui est bibliothécaire, peu importe. Mais
t'aurais pu dire courtier immobilier, puis c'était mon partnership.
Ouais, c'est ça.
C'est
bon.
T'es un proche en temps. Je dis un gros shout-out à Maxime et Alex.
Mais des fois, c'est ça. Ces gens-là, oui, ont des connaissances dans chacun leur domaine, mais de bien comprendre le système du bâtiment puis son concept, ben ça leur prend quelqu'un d'externe qui vient les aider à le faire.
Puis même les gestionnaires n'ont pas toujours cette expertise-là à l'interne.
Tout à
peut-être
fait.
Pour les affaires de base, mais quand tu veux vraiment projeter sur plusieurs
tout à fait,
années.
Ben, quand on parlait tout à l'heure, on vise les copropriétés beaucoup avec ce service-là. Ben, on vise par la bande les gestionnaires de copropriétés parce qu'eux, dans le fond, leurs clients ont besoin de faire ce genre d'études-là, puis eux ne peuvent pas vraiment prendre le bâton de pèlerin puis dire, bon, ben ça, tant de temps, ça, tant de temps, puis ça, ça coûte tant. C'est pas leur formation, puis c'est pas leur champ de compétences non plus, là, directement. Là.
Très intéressant.
Vraiment super intéressant. Écoute, est-ce que tu veux nous faire juste un court rappel de vos services par rapport à ce que vous pouvez proposer?
Oui, tout à fait. Dans le fond, Réseau de Vinci Experts en bâtiment, nous, on traite dans l'expertise de l'enveloppe du bâtiment, la mécanique légère aussi. On a des partenaires qui peuvent nous assister là, dans différents domaines plus pointus. Mais en réalité, on touche l'inspection de bâtiments, autant visuel, technologique avec la thermographie, l'infiltrométrie, l'analyse de la qualité de l'air, département d'estimation, puis dans le fond, l'inspection pour la durée de vie des bâtiments, tout ça, puis la simulation énergétique aussi qui est assez intéressant pour les différents promoteurs.
Là. Fait que tu te déplaces avec quelques balettes, là. J'ai bien suivi. T'arrives quand même avec du stock. Là.
Ouais, le véhicule est pas mal plein.
C'est quand même super cool. Renaud Bergeron, directeur technique de Réseau de Vinci, expert en bâtiment. Je tiens à te remercier infiniment d'avoir été présent à notre émission. C'est du contenu super pertinent qu'on amène aux auditeurs. On a une émission qui se niche dans l'investissement immobilier, se niche dans l'immobilier en général. Puis tu sais, on pense toujours avoir des personnes dans notre réseau de contacts qui vont être en mesure de répondre. Puis, tu sais, on a toujours quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre entourage, qui nous amène des connaissances puis une expertise tellement
toujours de plus en plus pointue,
précise, qui fait en sorte qu'on est capable d'évoluer tellement plus rapidement avec tout ça. On l'apprécie énormément. Restez avec nous juste après la pause. Kevin Pépin avec Copy Management. Je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. On se revoit samedi prochain.
The Alternative Radio Station 96.9.
On est de retour aux chroniques Copy Management avec Kevin Pépin. Comment ça va?
Ça va bien, vous? Ça va super bien. Salut Kevin, comment ça va?
En forme, toi aussi Jeff?
Ça va super bien. Écoute, le marché immobilier est toujours en feu, ça va vraiment bien. En plus, on a un pro avec nous qui vient nous donner plein de concepts au niveau de management, au niveau gestion, au niveau... vient même nous aider au niveau éducatif sur comment bien comprendre...
Prof Pépin.
Exact, c'est prof ça. Pépin.
Première fois, celle-là. Prof
Pépin. Puis, aujourd'hui, Kevin, je pense que tu voulais parler du KPI d'une gestion immobilière. C'est quoi ça, un KPI?
Oui, en fait, c'est les indicateurs de performance, ou en anglais, justement, les KPI, Key Performance Indicator. Et en fait, c'est tout simplement de se poser la question, j'ai un gestionnaire immobilier, comment est-ce que j'évalue sa performance? Et c'est super intéressant parce que dans d'autres types d'industries, on va analyser beaucoup, on va donner en fait à notre équipe, à notre entreprise, des indicateurs de performance. Donc, un manager va avoir un tableau de bord. Son tableau de bord, il va avoir des indicateurs qui vont suivre. Et ces indicateurs-là vont être conçus, justement, vont être réfléchis, conçus à savoir est-ce que les gens appliquent vraiment les bonnes méthodes, est-ce qu'ils appliquent les bonnes politiques d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs et comment est-ce qu'on peut monitorer ces actions-là. Et ça, ça va se refléter en chiffres. Et c'est là qu'on va utiliser les indicateurs de performance pour suivre la performance de nos résultats.
Puis je trouve ça le fun que tu dises ça, de savoir comment qu'on peut mesurer la performance de notre gestionnaire d'immeubles. Parce que souvent, on va donner nos immeubles en gestion. On va payer un certain pourcentage au niveau de la gestion. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est pas avoir de vacances puis de gérer nos locataires, ouais. Mais d'un autre côté, on veut aussi avoir un rendement sur qu'est-ce qu'il va faire aussi.
Peut-être plus que zéro vacances.
Exactement. Oui, puis c'est être capable de communiquer avec votre gestionnaire quelles sont mes attentes. Parce que ça peut être facile de tout simplement dire, je te donne mon immeuble en gestion, puis je veux que ce soit bien géré. OK, mais
c'est quoi
être bien géré? Ouais. Parce que le gestionnaire, pour lui, peut-être que être bien géré, c'est qu'il y a n'importe quel type de locataire, puis que ça paye, ou que des locataires qui paient toujours l'intérieur de 5 jours, par exemple. Mais pour vous, bien gérer, c'est non. Mais le locataire paye toujours le premier. Je veux que ça soit très, très assidu sur le processus de location. Donc, c'est ça qu'on va voir avec les indicateurs. Donc, un premier indicateur, tout le monde le connaît bien, celui-là, c'est le délai moyen de location. Donc, à savoir, c'est quoi le temps entre le moment où est-ce qu'on a mis une unité, que ce soit un espace à bureau, que ce soit de l'habitation, commerce de détail, peu importe, c'est quoi le temps qu'il y a entre le moment que je l'ai mis en marché et la signature du bail? Donc, cet indicateur-là pourrait simplement venir indiquer est-ce que, tu sais, si par exemple vous avez des délais moyens de location de 45 jours, entre le moment que vous mettez une unité à louer et que quelque chose qui se loue et que vous tombez sur une autre unité qui, elle, prend 75 jours, ben, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi celui-là a pris plus de temps? Est-ce que c'était mon prix? Est-ce que c'était ma mise en marché aussi? Parce qu'il y en a beaucoup qui traitent l'immobilier avec leur téléphone cellulaire, un peu photocroche, puis ils mettent juste des photos bizarres. Donc, c'est un produit locatif. Donc, d'être capable de refléter la performance de temps entre le moment qu'on met en marché un logement et qu'on signe un bail. Ensuite de ça, on a dans le taux de vacances, donc un indicateur facilement calculable. Donc, c'est à savoir, est-ce que j'ai des mauvaises créances? Est-ce que j'ai, en fait, on pourrait plus appeler taux de vacances et mauvaises créances. Ouais. Mais, donc, est-ce que j'ai des mauvaises créances dans mon immeuble? Est-ce que j'ai des logements qui sont vacants? Et là, on peut comprendre que cet indicateur-là est lié au délai moyen de location. Et bien sûr, l'indicateur, lui, ce qu'il vient indiquer, c'est ben, si j'ai beaucoup de mauvaises créances, pourquoi? Est-ce que c'est parce que mon gestionnaire, il a vraiment rentré des locataires sans avoir fait d'enquête des crédits? Est-ce qu'il a fait une enquête à la régie du logement? Donc, est-ce qu'il y a une détérioration de cette mauvaise créance-là?
Parce que, en fait, c'est tout des vases communicants.
Oui,
c'est tout. Tu peux remplir un immeuble. Si le seul objectif, c'était zéro taux de vacances, moi, j'ai travaillé en gestion pendant un an et demi. Là. J'ai juste une micro-expérience. Puis, j'étais agent de location, mais c'est très facile de louer un logement pour louer un logement, mais après ça, quelle qualité de locataire tu as sur place? Puis si je peux mettre un bémol aussi du côté du propriétaire, faut qu'il soit prêt à, justement, comme tu disais, présenter un beau logement, puis investir dedans, puis faire un minimum. Certains propriétaires vont dire, tu dois me louer, tu dois me louer à ce prix-là, mais en contrepartie, ils sont pas prêts à
investir,
négocier, ouais, ou investir pour un futur locataire. Fait que c'est toutes des bases communicantes.
Exactement, et tu ne peux pas avoir juste l'indicateur de performance, délai moyen de location, sans avoir taux de vacances. Parce que justement, comme tu as mentionné, tu préfères rentrer n'importe qui.
Oui, très vite.
Exact. Fait que là, tu as un délai de moyen de location super performant. Après ça, au niveau de ton taux de vacances, ça va être pourri.
Ben moi, à mon avis, viser 0% de taux de vacances dans un immeuble moyen, là, du petit multi, c'est la norme, là, dans le sens que tu peux te prendre presque 6 mois d'avance, fait que c'est très facile.
Exact. Et
après ça, le taux de mauvaise créance, c'est une autre chose.
Ouais.
Ça se peut que tu aies des gens qui ne payent pas, mais de là à dire que tu as des logements vides, en sachant 5 à 6 mois d'avance que tu dois les louer, c'est un minimum.
Exactement. Donc, c'est un indicateur à suivre que... Vous devriez en fait vous prendre le temps de vous asseoir avec votre gestionnaire immobilier pour parler de ces points-là. Qu'est-ce que vous donnez comme cible? Au même titre que moi, quand que j'ai. Dans chacun de nos directeurs de division, je fais des rapports, j'ai un rapport de management à chacun des directeurs. Dans ce rapport-là, ils ont des missions commerciales, ils ont des KPI à atteindre, ils ont des primes. Donc, il y a vraiment une réflexion sur pour être capable de bien leur communiquer la vision sur mes attentes et le résultat qu'on veut atteindre. Mais c'est la même chose quand vous embauchez un gestionnaire immobilier. Ensuite de ça, on a. Le délai de recouvrement. Donc, combien de temps il est nécessaire à votre gestionnaire pour recouvrir les loyers en retard? Donc, ça permet justement de démontrer d'illustrer le niveau de discipline. Donc, est-ce que votre gestionnaire est vraiment quelqu'un qui discipline les locataires ou bien laisse faire les locataires, puis lui, il paye juste le 10, lui, j'ai pris une entente, il paye le 20, lui, il paye le 1. Donc, c'est de discuter avec lui sur c'est quoi vos attentes. Est-ce que pour vous, vous avez un cash flow qui est serré, puis c'est non négociable, c'est payé le premier du mois comme qui est convenu dans le bail. Évidemment, pas un bail qui est convenu à une autre date durant le mois. Mais le délai de recouvrement, donc de vous donner une cible. Et ce qui peut être intéressant avec ce ratio-là, c'est que quand vous avez des locataires qui ne payent pas, qui de manière récurrente, ben vous pouvez... enlever le calcul du ratio sur les logements où est-ce que le gestionnaire a pris la décision d'aller à la régie du logement. Fait qu'à un moment donné, le gestionnaire, si tu as une entente avec lui, tu lui dis, écoute, voici mes indicateurs de performance, on s'entend pour X nombre de bonus si tu atteins mes indicateurs. À un moment donné, lui, ce ratio-là est toujours affecté. Il peut se dire, OK, là, je suis tanné, mon délai de recouvrement, par exemple, c'est 5 jours, puis ce locataire-là m'amène toujours à 10 jours. Bon, mais je rouvre un dossier à la régie parce que, justement, je veux que ça arrête d'affecter mon indicateur. Donc, indirectement, ça vient aussi forcer le gestionnaire à se dire, ben écoute, j'ai ma cible, je ne suis pas capable de l'atteindre, qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrête d'affecter mes chiffres?
Pour aligner les intérêts, finalement.
Aligner les intérêts, exactement. Puis ça, en fait, au-delà du chiffre et du résultat, c'est d'avoir la discussion avec le gestionnaire. C'est tout simplement une occasion de s'asseoir et de discuter de vision, pas juste de vision de... Je vais m'acheter plein de blocs dans la vie, puis je vais être riche, là.
Puis pas juste de pourcentage. Puis toi, tu le sais dans le courage, mais combien tu me charges pour mon bloc? Okay.
Parce que là, tu sais, au-delà de ça, c'est que tu viens choisir ton gestionnaire avec des indicateurs, mais c'est pas juste choisir ton gestionnaire parce qu'il est sorti sur Google en premier, là.
Ouais, ou qui présente le plus beau taux de pourcentage sur les revenus bruts, alors que tu sais pas prendre tous les services inclus.
Ben, exactement.
Justement, qu'est-ce qu'il va faire pour toi ou ce qui peut pousser ta stratégie, ton immeuble?
Imaginez qu'on aurait, par exemple, une grille où est-ce que tu vois toutes les KPI des gestionnaires au Québec. Puis, tu sais, là, évidemment, ça n'existe pas, c'est utopique. Mais, puisqu'on n'y a pas accès, ben, je crois que c'est au propriétaire, à l'investisseur de s'asseoir et de dire, écoute, voici ma vision de mon entreprise, mais aussi voici la vision de ce que je m'attends de toi au niveau opérationnel. Je m'attends à ces chiffres-là, ces chiffres-là, ces chiffres-là, ces chiffres-là. Si tu ne respectes pas, si tu n'atteins pas la cible, soit que j'avais des attentes trop élevées, donc là, à ce moment-là, c'est au gestionnaire, lorsqu'il approuve les indicateurs, de dire, écoute, moi, je pense que dans le secteur, pour ce type de logement-là, ça ne marche pas, ou bien il ne fait pas bien son travail, puis il y a des lacunes. Donc, c'est un des deux. Donc, c'est pas toujours la faute du gestionnaire, ça peut être aussi la faute du propriétaire qui ne connaît pas nécessairement les indicateurs de marché et que...
les attentes sont trop élevées versus la réalité.
Oui, c'est ça. Comme tu dis, encore là, ça revient au gestionnaire à mettre ça en perspective au départ. Idéalement, comme ça, justement, on est sur la même longueur d'onde pour l'année ou les années à venir. Là.
Exactement ça. C'est vraiment une opportunité de discuter vision sur les résultats attendus. En ce sens, on a le ratio des revenus nets réels. Donc, on le sait, on a le revenu net normalisé, qui tient compte de charges réelles et de charges normalisées, mais on a aussi le ratio des revenus nets réels, qui est la réalité.
Donc, combien il en reste dans mes poches?
Combien il en reste dans mes poches?
Ton bilan, là, ton vrai bilan comptable.
Exact. Donc, pour les gestionnaires, ça peut être une belle manière de dire, écoute, moi, je m'attends à ce que mon revenu net réel, en pourcentage sur mes revenus bruts, soit de temps. Et là, c'est un indicateur qui est intéressant, parce qu'on peut faire un lien avec le taux de vacances. Parce que évidemment, les taux de vacances, ça va faire diminuer le revenu net et les mauvaises créances. Donc, ça peut être de dire, ben moi, je m'attends à avoir comme cible, par exemple, d'avoir 65 % de revenus nets réels. Je veux qu'en cash flow, avant le paiement de la dette, parce que le gestionnaire n'est pas responsable nécessairement
de la dette. De tes ententes hypothécaires.
Exact. À moins que ce soit un gestionnaire d'actifs, puis que là, ce soit vraiment un gestionnaire de portefeuille plutôt, là, que ce soit encore plus haut. Mais ça reste que tu donnes une cible à atteindre. Ensuite, tu as les ratios des revenus nets normalisés. Donc là, évidemment, la notion de normaliser, c'est qu'on a des dépenses, surtout quand on fait des analyses de valeur marchande, de valeur bancaire, il y a des dépenses qu'on va normaliser. Donc, c'est des standards de l'industrie qu'on va utiliser. Par exemple, entretien et réparation, frais de conciergerie, frais de gestion, même le taux de vacances et mauvaise créance est normalisé. Quand on parle d'espace à bureau puis de commerce de détail ou industrie, on va avoir de la réserve structurelle aussi qui va être ajoutée. Et évidemment, en habitation, ben, les réserves pour mobilier électroménager. Donc, c'est le cas de bâtir le revenu net normalisé, qui va être le revenu net utilisé au niveau valeur marchande et bancaire, et de dire à ton gestionnaire, ben, écoute, je m'attends à ce qu'il y ait X pourcentage qui soit respecté. Donc là, c'est vraiment différent du revenu net réel, bien que ce soit des vases communicants entre les deux, ça reste que c'est un indicateur qui va être différent. Et bien sûr, la différence avec le revenu net réel, c'est que le revenu net réel, c'est principalement sur les liquidités opérationnelles avant le service de la dette, alors que le revenu net normalisé, lui, va beaucoup plus refléter la capacité d'emprunt de l'immeuble, donc au refinancement ou lors de l'évaluation marchande.
Ou pour dans une optique de vente.
Ou dans une optique de vente.
Si dans un an, exactement, je veux vendre, arrive à tel revenu net normalisé, connaissant mon TGA, je vais pouvoir aller chercher telle valeur.
Et voilà. Et évidemment, il va y avoir une forte corrélation entre ton revenu net normalisé et ton revenu net réel. Mais tu sais, je prends l'exemple d'un bâtiment neuf. Exemple, un bâtiment tout inclus. Là. Ils vont mettre 37,5% de dépenses normalisées. Fait que là-dessus, tu as des dépenses réelles, des dépenses normalisées. Mais dans le réel, tu vas avoir 32,5% de dépenses. Donc, tu peux dire à ton gestionnaire, ben écoute, tu sais, au niveau du normalisé, au niveau réel, je m'attends à être dans cette braquette-là. Et après ça, ben lui, ça l'aide aussi, hein, quand il vient augmenter ses revenus de loyer, d'être capable d'émettre des bonnes recommandations aux propriétaires, à l'investisseur, à dire, ben écoute, moi, je juge qu'on devrait augmenter les loyers de temps. Ensuite de ça, on arrive à un autre qui, lui, va être un petit peu plus difficile. Le délai de production des rapports financiers. Et ça, c'est un indicateur qui est vraiment intéressant. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer, puisque il y a une chose que j'ai remarqué dans bon nombre de partenariats, des partenariats lorsque c'était des clients externes qui venaient au bureau et qu'on aidait. Il y a toujours un problème, ce que je vais appeler un problème de gouvernance, en fait. C'est quand tu es en partnership, la plupart des gens, ils ne se font même pas de convention d'actionnaire, ils font pas de papier ou quoi que ce soit. Là, ils disent juste, tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça. Et ça a fini par occasionner, dans la plupart des cas, des problématiques. Mais d'être capable, quand vous avez un partenaire qui est responsable de faire, par exemple, la tenue de livre et de gérer l'information financière, d'être capable de s'entendre sur un délai pour qu'il produise cette information-là. D'être capable de suivre ce qu'il fait.
Au même titre que quand on a quelqu'un qui va s'occuper de l'entretien, ben quand la toilette va couler, il faut que ça soit fait rapidement. Hein?
Exactement. Il faut que tu le saches. Il faut que tu regardes le suivre tes chiffres. Et vous seriez surpris. Vous seriez surpris dans le marché de la quantité de gens qui se mettent en partnership et que ça vire au bordel. Ça vire au bordel. Et ça vire pas nécessairement au bordel parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés ou parce que c'est pas bien de faire des affaires ensemble. C'est pas ça du tout. C'est juste que à la base, il n'y a pas eu une vision claire établie sur les attentes de chacun, puis on s'est pas mis des indicateurs pour le cas de G. Tu fais-tu ta job comme partner ou tu la fais pas? Et délai de production des rapports financiers est super important parce que ça va être un indicateur. La personne qui va être en charge de ça, si elle ne le respecte pas, ça va être un indicateur qui a un problème de back-office. Et souvent, les plus grosses problématiques sortent du back-office. Quand le back-office va pas bien, il y a des fortes chances qu'au niveau personnel, ça n'allait pas bien. Puis il va y avoir des lacunes qui vont s'accentuer, surtout dans une croissance d'entreprise. Une croissance d'entreprise vient accentuer toute l'inefficience qu'il existe dans une entreprise. Et ça, c'est super important. Ça vient indiquer, au-delà d'avoir vos chiffres, ça vient indiquer est-ce qu'il y a une bonne efficience, puis il y a des bonnes procédures opérationnelles pour être capable de suivre l'information financière de manière récurrente sur les délais que vous êtes entendus.
Puis par exemple, pour un gestionnaire d'immeuble, ça pourrait être trimestriel ou ça pourrait être en cours d'année. Même ça devrait peut-être être en cours d'année pour pas seulement avoir un son de cloche.
Un bilan à fin d'année.
À chaque année, dire, ouais, on a passé à côté. Je pense que c'est arrivé cet été, mais tu sais.
Puis tu vois, moi, j'ai fait des tests personnels. J'ai une compagnie qui est gérée mensuelle avec les déclarations de taxes, etc. J'en ai une qui est au trimestre. Puis, j'ai l'impression de toujours perdre le fil avec ma compagnie au trimestre versus l'autre que je suis vraiment très près de mes chiffres. Puis, tu sais, c'est une question personnelle par rapport à tout ça. C'est des tests que j'ai fait avec deux
compagnies. Tu te sens plus rassuré de le savoir mensuel, 12 fois par année.
Exact. Puis, d'un autre côté, j'ai des ajustements que je peux faire plus rapidement aussi.
Ouais.
Tu sais, ça veut pas dire que le trimestre, c'est trop loin non plus. Tu sais, c'est moins pire qu'une fois par année quand on va voir notre comptable puis qu'il dit, ah, ben, écoute, t'as une belle année cette année, continue, lâche pas. Ou que tu arrives un an plus tard puis qu'il dit, oups, allez. Tu sais, tu as eu beaucoup de dépenses cette année. Tu vas te faire manger par l'impôt, tu n'as pas assez d'argent mis de côté. On veut pas savoir une fois dans l'année. On veut être mis à l'avant-plan de ça. On veut être mis au courant. Puis définitivement que d'avoir ces rapports-là rapidement, ça fait partie de la game.
Oui. Ça, c'est super important. Ça vient indiquer au-delà d'avoir vos chiffres, ça vient indiquer est-ce qu'il y a une bonne efficience. Qu'il y a une bonne efficience, puis il y a des bonnes procédures opérationnelles pour être capable de suivre l'information financière de manière récurrente sur les délais que vous êtes entendus.
Puis pareil.
Si acheter votre première propriété ou changer de maison, appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement, c'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications, puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.